Ici Téhéran, voix de la République islamique d'Iran.
Au nom de Dieu, le très miséricordieux, le tout miséricordieux. Recueillons-nous pour méditer ensemble sur les versets 1 à 6 de la Sainte Sourate Bayana. Nous vous en présenterons tout d'abord la lecture chantée et ensuite la traduction.
A'udhu billahi minash shaytanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة وما وذلك دين القيمة صدق الله العلي العظيم.
Ceux les gens du livre qui m'écroient, ainsi que les faiseurs de Dieu, ne cesseront pas jusqu'à ce que leur vienne la preuve. Un messager de la part de Dieu récite des feuilles purifiées, où sont des prescriptions droites. Et à ceux qui le livre a été donné, ne se sont divisés qu'après que la preuve leur fut venue. Il ne leur a été commandé, cependant, que d'adorer Dieu, en purifiant pour lui la religion en sincère, et d'établir l'office, et d'acquitter l'impôt. Et voilà la religion de droiture. Oui, ceux des gens du livre qui m'écroient, ainsi que les faiseurs de Dieu, au feu de la gêne, pour y demeurer éternellement. De toute la création, ce sont eux les pires.
Chers auditeurs, bienvenue sur les ondes de la radio francophone iranienne. Vous pouvez nous capter tous les soirs de 18h20 à 19h20, temps universel, sur ondes courtes, dans la bande des 49 mètres, sur la fréquence de 6135 kHz, en Europe et en Afrique du Nord. À Téhéran, nos auditeurs peuvent nous entendre à la même heure sur FM, dans la fréquence de 99,5 MHz. Vous pouvez également nous capter sur les satellites Hotbird et Eutelsat 3.
Sommaire de ce journal, toute erreur potentielle des ennemis recevra une réponse ferme. Déclaration de l'état-major des armées de la République islamique d'Iran. Le ministre iranien des Affaires étrangères a réitéré la nécessité de trouver une solution pacifique à la crise au Yémen en encourageant les pourparlers inter-yéménites. Et puis Moscou, hôte d'une réunion des ministres turcs, russes et syriens de la Défense. C'était les principaux titres que nous allons tout de suite développer dans ce journal. Bienvenue à tous. L'état-major général des forces armées iraniennes, dans une déclaration à l'occasion de l'arrivée du 9 Dey, qui marque l'anniversaire de la mort en martyr du très haut général iranien Qassem Soleimani, a averti que toute erreur potentielle, l'ennemi, en tout lieu et à tout moment, recevra une réponse ferme. Dans une partie de ce communiqué évoquant les troubles récents dans le pays, il est dit « Les ennemis de l'ordre de la République islamique d'Iran, dans une nouvelle tentative ratée de semer la sédition, et cette fois sous prétexte d'une prétendue défense des droits des femmes, mais en réalité dans le but de renverser le régime, ont mis tout leur possible sur le terrain pour plonger le pays dans le chaos en créant des divisions générationnelles, ethniques et religieuses et en recourant aux projets de polarisation et d'homicide et en liquidant les forces qui défendaient la sécurité. Une vague massive d'actions violentes provoquées sur une courte période de temps dans différentes parties du pays et la production sans précédent de contenu par les médias hostiles ont montré l'organisation bien orchestrée de ces troubles. Mais ce plan diabolique des ennemis, comme les conspirations précédentes, a été désamorcé grâce à la perspicacité, à la vigilance et à la position ferme du peuple zélé de l'Iran islamique, fidèle à son leader. Les forces armées de la République islamique d'Iran, en alerte et puissantes, ne permettront jamais aucune atteinte à la sécurité du peuple et à la révolution islamique. Vigilantes, elles surveillent les moindres agissements des ennemis de la République islamique d'Iran, à leur tête les États-Unis et le régime factice sioniste, et toute erreur potentielle de leur part, en tout lieu et à tout moment, recevra une réponse ferme. Elles feront de sa source la cible de leur riposte, conclut l'état-major des forces armées iraniennes. L'armée iranienne commencera des exercices militaires à grande échelle dans une zone s'étendant du secteur oriental du détroit stratégique d'Hormuz à la pointe nord de l'océan Indien, a déclaré le chef adjoint de l'armée iranienne pour la coordination, le contre-amiral Habibullah Sayari. Il a expliqué à la presse que les exercices conjoints, baptisés Zolfaror 1401, commenceront ce jeudi soir avec la devise « Confiance en soi, puissance, sécurité durable » dans le but de promouvoir la puissance de combat des forces armées. Participeront à ces exercices les unités d'infanterie et blindées ainsi que les régiments mécanisés de la force terrestre de l'armée, les systèmes de défense aérienne, les navires souterrains, des surfaces et volants et les rangées de la marine. Des bombardiers stratégiques de l'armée de l'air apporteront également un soutien logistique. Les manœuvres visent à améliorer la planification, la direction et l'évaluation des opérations conjointes et à mettre en synergie la puissance de défense des quatre principales divisions de l'armée. Les exercices se concentrent également sur le renforcement des compétences des commandants et du personnel de l'armée dans l'utilisation des unités de combat et de la base de défense aérienne de Khatam Al-Anbiya, des drones, des systèmes de guerre électroniques et cybernétiques. Israël intensifie sa rhétorique anti-iranienne en menaçant à nouveau la République islamique d'Iran d'actions militaires contre ses sites nucléaires. Le ministre israélien des Affaires militaires a déclaré que Tel Aviv pourrait attaquer les installations iraniennes dans 2 ou 3 ans. Benny Gantz, dans un discours, a déclaré aux jeunes pilotes de l'armée de l'air qu'ils participeraient à de telles attaques. Contrairement à l'Iran, Israël n'est pas signataire du traité de non-prolifération nucléaire qui permet à l'organisme de surveillance nucléaire de l'ONU de parvenir à l'objectif ultime de désarmement nucléaire et vérifier la vocation pacifique et l'utilisation civile des technologies nucléaires. Israël posséderait jusqu'à 400 ogives nucléaires opérationnelles. Le ministre iranien des Affaires étrangères a réitéré la nécessité de trouver une solution pacifique à la crise au Yémen en encourageant les pourparlers interyéménites. L'Iran a toujours souligné la nécessité de trouver une solution pacifique à la crise au Yémen et accorde une attention particulière au dialogue politique interyéménite et le considère comme une question intérieure du pays, a déclaré Amir Abdullahian. Le chef de la diplomatie a rencontré mercredi 28 décembre le négociateur en chef du gouvernement de salut national du Yémen, Mohamed Abdelsalam, à Mascate, la capitale du sultanat d'Oman. Lors de la rencontre, il a fait l'éloge de la persévérance et la résistance du peuple yéménite pour recouvrer ses droits légitimes. Enfin, le ministre de la Défense et le chef du renseignement syrien ont rencontré leur homologue turc à Moscou en présence des autorités russes, ont rapporté les médias officiels syriens. Les médias syriens ont également rapporté que les deux parties avaient discuté de plusieurs questions d'intérêt bilatéral pour les deux pays. Le ministère turc de la Défense a également confirmé le rapport, le décrivant comme un signe clair de normalisation entre Ankara et Damas. Le ministre turc a ajouté que le ministre russe de la Défense, Sergueï Shoigu, était également présent à la réunion. Les participants ont convenu de poursuivre les réunions trilatérales plus tôt ce mois-ci. Le président turc, Recep Tayyip Erdogan, a déclaré qu'il avait proposé à son homologue russe, Vladimir Poutine, d'élaborer un mécanisme trilatéral pour donner une suite efficace aux initiatives diplomatiques entre Ankara et Damas. Fin de ce journal. Merci infiniment de votre attention. Dans quelques instants, notre commentaire politique. Restez avec nous. Merci. Énergétique en France, des bons pour acheter du bois de chauffage. alors que le gouvernement français a prévu une aide de 50 à 200 euros pour les habitants qui chauffent leur logement au bois de chauffage, de plus en plus de ménages sont poussés chaque jour dans la pauvreté, avec l'augmentation soudaine des tarifs de l'énergie en Europe. L'Europe est au milieu d'une crise énergétique sans précédent et largement au taux infligé après avoir restreint les achats de pétrole, de gaz, de charbon et d'électricité russe pour punir Moscou pour ses opérations militaires en Ukraine, rapporte l'agence de presse Sputnik. Les restrictions entraînent une forte augmentation des coûts énergétiques et menacent la zone de désindustrialisation. Le gouvernement français a promis d'aider les ménages à faire face à l'augmentation des prix de l'énergie. Le chèque énergie bois peut être demandé depuis mardi 27 décembre par les foyers éligibles. Cette aide, comprise entre 50 et 200 euros, est attribuée selon les conditions de ressources du demandeur et le type de bois de combustible qu'il utilise. Les résidents français qui utilisent des bûches, des copeaux de bois ou des granulés pour chauffer leur logement peuvent désormais recevoir cette aide du gouvernement pour les aider à faire face à la crise énergétique. Selon les autorités, le programme intitulé « Chèque énergie exceptionnel » vise à aider les familles à faible revenu à survivre à l'hiver, le prix du bois de chauffage ayant augmenté de 30% cette année, ont indiqué des autorités. Afin de réduire leurs factures énergétiques, de plus en plus de ménages délaissent le gaz et l'électricité au profit du bois ou de granulés. En septembre, Paris a annoncé un plan de dépenses de 45 milliards d'euros pour aider à protéger les ménages et les entreprises face à la forte hausse des prix de l'énergie. Pour la seule année 2023, le coût brut du bouclier énergétique est évalué à 45 milliards d'euros et le coût net pour le déficit public à 16 milliards d'euros. Le bouclier tarifaire, qui plafonne la hausse des prix à 4%, n'est pas le seul outil déployé pour tenter de limiter l'impact de la flambée des prix du gaz et de l'électricité. Dans son budget 2023, le gouvernement doit encore prévoir 45 milliards d'euros face à l'explosion des prix de l'énergie. Le ministre français de l'économie, Bruno Le Maire, a assuré à plusieurs reprises tout au long de l'année que le plafonnement des prix de l'électricité et d'autres mesures garantiraient que les ménages ne seraient pas lésés par la hausse des prix. Selon les agences de presse, avec l'augmentation spectaculaire des tarifs de l'énergie en Europe, de plus en plus de ménages sombrent chaque jour dans la pauvreté. À cet égard, Jean-Philippe Tanguy, homme politique français et membre du Rassemblement national français, s'est interrogé sur l'équité du contrat gazier franco-allemand et a déclaré que cet accord n'est pas assez transparent et coûtera cher à Paris alors qu'il n'y a aucune garantie, il n'y a pas de retour. Cet accord est la preuve de la perte de la souveraineté énergétique française, a déclaré le parlementaire dans son récent appel à la ministre de la Transition énergétique. Paris n'a fourni aucune précision sur les conditions économiques et financières de ce contrat, notamment sur le prix des ventes de gaz à l'Allemagne. En contrepartie, la France achètera de l'électricité d'origine fossile, notamment du charbon à l'Allemagne. Cela contredit les engagements de la France en matière d'énergie propre, a noté le législateur. L'homme politique a souligné que le système énergétique français faisait face à un hiver difficile, exacerbé par des grèves, et a appelé les autorités à gérer prudemment la réserve de gaz dont ils disposent pour répondre à la demande. Il a souligné que Berlin ne s'est engagé officiellement sur aucun contrat en cas de manque d'électricité en France. Et si cet engagement attendu n'est pas tenu, la France, qui a déjà fourni son gaz à l'Allemagne, restera sans électricité. En conséquence, l'actuel accord gaz contre électricité représente une perte de la souveraineté énergétique de la France et menace de faire du pays un importateur net d'électricité. Pour la première fois en 40 ans, a déploré le législateur. Il a souligné que le gouvernement devrait rendre public les termes de l'accord franco-allemand afin de rendre visible et transparent cet accord énergétique inédit. La demande du législateur intervient au milieu de la crise énergétique actuelle qui a mis la pression sur la France et ses alliés de l'Union européenne. Grâce à ces centrales nucléaires qui fournissent près de 70% des besoins en électricité du pays, la France a été en partie à l'abri de la crise énergétique qui touche la plupart de ses voisins. Paris a tranquillement continué à acheter de l'uranium enrichi à la Russie et au Kazakhstan pour alimenter ses centrales nucléaires, malgré le fait qu'il se joignait à ses partenaires de l'Union européenne pour imposer des restrictions sur les hydrocarbures russes. Selon les médias français, la France a acheté environ 153 tonnes d'uranium enrichi à la Russie en 2022.
Bonjour à tous, bienvenue sur nos plateaux de télévision de Presse TV, ici à partir de la capitale iranienne, Téhéran. Aujourd'hui, nous allons parler des manifestations qui se sont déroulées en France, pas seulement ces derniers jours, mais en général, où on peut voir pas mal de violences policières de manière régulière. Manifestation était-ce maintenant synonyme en France de violence policière? C'est la question d'aujourd'hui. Comme le veut notre format débat, je vous propose d'abord de regarder notre reportage pour par la suite accueillir nos invités. Tout de suite le reportage.
Des violences ont éclaté entre manifestants et forces de l'ordre en marge du rassemblement organisé samedi à Paris pour rendre hommage aux trois Kurdes tués par un homme armé dans la capitale, ont constaté des journalistes de l'AFP. Au moins quatre voitures ont été renversées, dont au moins une incendiée et des poubelles brûlées sur le boulevard du Temple, près de la place de la République. Les forces de l'ordre visées par des jets de projectiles ont répliqué par des tirs de grenades lacrymogènes. Plusieurs centaines de personnes se sont réunies samedi à la mi-journée, place de la République à Paris. Dans la foulée, de nombreux manifestants agitaient des drapeaux du PKK, parti des travailleurs du Kurdistan, ou à l'effigie de trois militants kurdes assassinés en janvier 2013 à Paris, a constaté une journaliste de l'AFP. Une minute de silence a été observée en musique à la mémoire des victimes et de tous les Kurdes morts pour la liberté. Plusieurs manifestants présents samedi ont dénoncé auprès de l'AFP une injustice et un acte terroriste et politique. Trois personnes d'origine kurde, deux hommes et une femme ont été tués par balles et trois autres blessés vendredi 23 décembre à Paris par un homme qui a dit avoir agi parce qu'il était raciste. Peu avant midi, un homme a ouvert le feu près du centre culturel kurde Ahmed Kaya, situé au 16 de la rue Denyen, dans un quartier animé de 10e arrondissement de Paris, prisé de communautés turques et kurdes. Une femme et deux hommes sont morts. Selon le dernier bilan, un homme est toujours sérieusement blessé. Deux autres le sont aussi, mais moins grièvement. Le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, s'est rendu sur place dans l'après-midi. Il a précisé que deux des victimes ont été tuées devant le centre culturel kurde. Le troisième a été tué dans un restaurant kurde, proche où il tenait de se dissimuler après avoir été poursuivi par l'assaillant présumé. Légèrement blessé au visage, ce dernier a été interpellé après avoir été maîtrisé par plusieurs personnes dans un salon de coiffure à proximité. Une mallette contenant deux ou trois chargeurs approvisionnés, une boîte de cartouches calibre 45 avec au moins 25 cartouches à l'intérieur a été découverte près de lui, selon une source proche du dossier. L'arme utilisée est un Colt 45 de 1911 de l'armée américaine d'apparence usée. Il a été depuis placé en garde à vue, enquête ouverte pour assassinat, tentative d'assassinat, violence volontaire avec arme et infraction à la législation sur les armes a été confiée à la direction régionale de la police judiciaire, a indiqué le procureur de Paris, Laure Bécaud, venu sur place peu après les faits.
Nous revoilà sur les plateaux de télévision. Donc, nous allons accueillir tout d'abord nos invités. Tout d'abord, je vais commencer par M. Jacob Cohen, analyste politique, écrivain également. Bonjour, M. Cohen.
Bonjour.
Ravi de vous avoir sur nos plateaux, ravi de pouvoir avoir votre expertise. Notre deuxième invité, M. André Chamy, juriste international, notre deuxième expert de la journée. Bonjour, M. Maître André Chamy.
Bonjour à vous tous, bonjour à vos téléspectateurs, ainsi qu'à M. Cohen.
Alors, comme vous l'avez compris, le sujet d'aujourd'hui représente un peu les manifestations en France. Est-ce que manifestation maintenant en France est synonyme de violence policière? Il suffit que des gens décident de manifester, quel que soit le nombre de personnes, et ça se finit souvent en violence dans les rues. Nous avons vu les dernières images qui ont eu lieu à Paris. Monsieur Cohen, nous allons commencer par vous, si ça ne vous dérange pas. Alors, que révèle ce genre d'images et d'événements qui arrivent assez souvent et régulièrement dès qu'il y a des manifestations en France?
En fait, plutôt politique. Il y a un nom. Allô?
Je vous écoute. Oui, allez-y.
D'accord. En fait, la dimension violente est une question politique. C'est-à-dire, il y a des manifestations qui peuvent réunir des dizaines de milliers de personnes, des centaines de milliers, mais si elles portent sur des circonstances où que le pouvoir n'a pas envie de réprimer, elles peuvent très bien se passer. S'il y a violence, de la police, c'est pas qu'il a voulu. C'est-à-dire, par exemple, vous prenez les gilets jaunes, ils auraient très bien pu manifester dans le monde. Mais on leur dit deux obstacles pour montrer que ce sont des gens violents. D'une part, on les manifestants, ça veut dire on les met dans un piège dont ils peuvent sortir que par la. Et donc, tu peux l'exprimer, ou bien utiliser des plaques, donc, c'est-à-dire ces actes en deux couches volantes qui sont manipulées par la police. Donc, en fait, la violence, il faut la voir comme un moyen police aux mains du gouvernement, du ministère de l'Intérieur, qui a raison particulière de mais dans la violence, de montrer que les manifestants sont violents et qu'on ne peut les contrer que par la violence. Donc, il faut peut-être être capable de bien chercher pourquoi le gouvernement n'a pas laissé en manifester dans le calme. Voilà.
Ça veut dire qu'en France, les manifestations pacifiques ne peuvent pas exister, que ce n'est pas possible de pouvoir aller dire dans les rues ce qu'on réclame, soit du gouvernement, soit de notre insatisfaction, sans se retrouver face à ces scènes de violence. C'est devenu impossible en France ?
Elle existe d'ailleurs. Il y a eu, par exemple, les manifestants sur l'écologie, par exemple. Elles se passent très bien. Sur les femmes, j'ai oublié l'accord violent qui manifeste contre la pression des hommes. Il peut y avoir 100 000 personnes, ça se crée. Pourquoi? D'abord, il n'y a pas de présence publique. La présence des publics est un élément de tension. Lorsque vous avez des manifestants qui sont encadrés par des policiers, par des dizaines de cas, lorsqu'ils sont nassés, lorsqu'ils sont piégés dans des cours. Donc, en fait, la police cherche l'affrontement. Donc, si elle cherche l'affrontement, c'est que l'objectif politique faire sortir que les manifestants sont violents et qu'il faut les réprimer. Et aussi, c'est un message à ceux qui voudraient rejoindre ces manifestants. Par exemple, les gens, il y a des dizaines de milliers de personnes qui pourraient vous le faire, mais qui ont peur d'avoir un incubé ou un rajout. Et donc, c'est la violence exercée justifiée par la police est un moyen de politiser, est un moyen de dissuader les gens et de punir sévèrement ceux qui manifestent. Et je dirais ceci, c'est que ceux qui manifestaient par exemple contre le mariage homosexuel, ça s'est bien passé parce que le gouvernement l'a voulu ainsi. Voilà.
Merci, Monsieur Kouaï. Une dernière demande. On parle d'extrémisme de droite à l'heure actuelle en Europe qui est extrêmement forte. Finalement, l'homme qui a été arrêté, qui est responsable de ces meurtres, beaucoup de Kurdes ont réclamé le mot de terrorisme pour le décrire. Plusieurs politiciens en Europe et dans le monde ont averti de l'extrémisme de droite. Est-ce que vous-même, vous pensez que c'est un plus grand danger que n'importe quel autre qu'autre terrorisme à l'heure actuelle?
Parce que la droite est liée, une droite, disons, nationale, patriotique, anti-européenne, qui n'est pas pour les solutions, par exemple, contre la Russie, qui font plus de mal que les Européens. Cette droite-là, c'est elle qui est battue par tous les mouvements. Et on l'a passé pour expliquer, par exemple, cette droite qui est globalement contre la vaccination obligatoire, contre l'exclusion des soignants, les soins non vaccinés. Donc, en fait, cette droite populiste qui veut revenir aux valeurs des nations, aux valeurs de la famille, sont très mal vues par le pouvoir, les pouvoirs européens, le pouvoir des lois. Et donc, ils sont en train de vivre des pouvoirs. Par exemple, l'arrestation de quelques monarchies en Allemagne. Et on a tenté comme une tentative d'État. Et enfin, c'est quand même. D'abord, ce mouvement-là était certainement assisté par la police, puis quand on voit les images de vieux anarchistes qui veulent établir la monarchie, on a envie de voler. Malheureusement, on n'a pas tellement envie de vivre, parce que la droite, tout ce qui touche la droite, c'est vrai qu'en Europe, il y a toujours cette hantise de la droite, parce qu'à qui passer, etc. Mais c'est un argument qui prend de moins en moins. Et donc, mettre paquet pour effrayer les plus.
Merci, Monsieur Cohen. Alors, nous allons vers notre deuxième invité, Monsieur André Chamy. Vous-même, que pensez-vous donc de ces actes d'extrémisme de droite? Je veux dire, certains grands politiciens, même de l'Union européenne, aux États-Unis, on a vu également le résultat. Cet extrémisme de droite est dangereux. On ne parle pas forcément de terrorisme. Ce n'est pas comme ça que les médias occidentaux en parlent. Mais beaucoup de gens ayant fait face à ce genre d'actes ont parlé de terrorisme de droite. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que c'est réellement un danger? Et l'importance que ça peut avoir à l'heure actuelle en Europe, parce que beaucoup de gens disent que derrière les manifestations, il y a des gens qui viennent juste pour, voilà, si ce sont, par exemple, on a vu les manifestations qui ont eu lieu lors de la Coupe du Monde, lors des résultats du Maroc, c'est pas forcément seulement les représentants des drapeaux marocains qui ont tout cassé. Qu'est-ce qui se passe réellement derrière ces manifs? Est-ce que c'est vraiment des actes d'extrême droite qui sont derrière et qui provoquent?
Alors, on ne va pas tout mélanger. Il y a plusieurs choses. Il y a la première chose, c'est la manière dont la police française gère ce type de manifestation. Effectivement, parfois, la police éprouve certaines difficultés pour encadrer certaines manifestations et se trouve parfois débordée. C'est la raison pour laquelle elle ne lui reste en quelque sorte que la violence, c'est-à-dire essayer de mater ceux qui débordent, et à ce moment-là, effectivement, vous avez des difficultés, y compris dans la circulation, c'est-à-dire ceux qui veulent même quitter les manifestations sont en quelque sorte en difficulté parce qu'ils n'arrivent pas à s'en sortir dès que les actes de violence commencent. Mais les actes de violence commencent, chacun essaie de renvoyer la responsabilité sur l'autre, c'est-à-dire vous avez les manifestants qui renvoient la balle chez les policiers et les policiers renvoient la balle par rapport au début des violences en disant que c'est des manifestants. On n'a jamais vraiment une image claire parce que c'est un instant T que les choses peuvent démarrer parfois par une petite provocation, parfois il y a un énervement, mais surtout parfois il y a un problème d'effectif. C'est-à-dire aujourd'hui, les ministères de l'Intérieur n'arrivent pas à gérer certaines manifestations parce que l'effectif de la police, et notamment ce qu'on appelle la police anti-émeute, est limité, et surtout par rapport à des manifestations qui se déclenchent en quelque sorte du jour au lendemain. C'est-à-dire par rapport à cette situation que vous décrivez, c'est la veille pour le lendemain. Et les associations kurdes déclarent la manifestation pour le lendemain. Vous n'avez pas forcément le temps, ou en tout cas le temps suffisant pour déplacer suffisamment d'effectifs parce que vous avez un problème global concernant l'effectif policier pour gérer ce type de, je dirais, d'événement. Et à partir de là, effectivement, c'est la violence qui l'emporte. Mais également, vous avez un problème par rapport à certains manifestants. Là, vous avez les manifestants kurdes qui sont sortis indiscutablement pour en découdre. Pourquoi ? Parce que pour eux, c'était une défiance à l'égard de l'autorité française. Et évidemment, ils voulaient marquer qu'ils sont dans leur quartier. Et à ce moment-là, il fallait qu'ils déploient un dispositif fort pour montrer qu'ils peuvent s'imposer. Évidemment, le ministère de l'Intérieur était ballotté entre la sympathie par rapport aux Kurdes qui se trouvent victimisés par l'événement et par rapport également au maintien de l'ordre. Et quand vous vous retrouvez dans ces situations-là, ce n'est pas toujours facile parce que si vous imposez votre dispositif policier de manière importante, on va dire, bon, regardez voir, il y a la police qui vient nous mater, mais en même temps, nous sommes les victimes. Et en même temps, vous avez ces gens qui ont envie d'en découdre, c'est-à-dire pour eux, c'était indiscutable. D'ailleurs, ils l'ont dit au cours des manifestants, ils voulaient s'imposer, ils voulaient montrer qu'eux, ils mènent une épreuve de force, y compris par rapport à la France, qui la considère comme responsable de ce qui leur arrive. D'ailleurs, ils disaient qu'on n'est pas protégé en France et la France ne nous protège pas. Et à ce moment-là, on reproche ce qui se passe au Moyen-Orient à la France, en disant on a soutenu la France, on a soutenu les Occidentaux, on a soutenu, etc. Mais en réalité, une confusion, il y a indiscutablement une confusion, pour ne pas dire un mélange de genres, entre ce qui se passe au Moyen-Orient et ce qui se passe là, parce que là, c'est une réaction par rapport à un événement majeur, indiscutablement grave, mais il ne faut pas le lier à ce qui se passe au Moyen-Orient. Ce qui se passe au Moyen-Orient, c'est autre chose, puisque les Kurdes ont un rôle, en tout cas se sont attribués un rôle, se sont octroyés un rôle, qui est le rôle de subsidiaire des forces occidentales et des Américains, et voire parfois de l'entité sioniste. Et à ce moment-là, effectivement, ils n'ont pas toujours le bon rôle, si j'ose dire. Parce que d'un côté, ils disent qu'ils combattaient contre Daesh, mais ils oublient de dire que c'est eux, par exemple, en Irak, qui ont facilité le passage de Daesh vers l'ensemble des villes irakiennes jusqu'à Mossoul. Et une fois que Daesh est arrivé à Mossoul, à ce moment-là, bien entendu, Daesh s'est retourné contre les Kurdes. Et à ce moment-là, les Kurdes qui ont joué le rôle de facilitateur se trouvent, entre guillemets, pris en étau entre les Turcs d'un côté et et Daesh de l'autre. Raison pour laquelle ils ont fait appel, et là encore, il faut le dire, à l'Iran. Et c'est le général Soleimani qui est venu en personne, à la demande de Barzani, qui ne trouvait de secours nulle part, y compris du côté des Américains. Et ce sont les Iraniens qui les ont sauvés et qui ont apporté leur concours pour leur permettre de se protéger. C'est-à-dire, les Kurdes jouent un rôle néfaste pour moi, parce qu'il y a un côté, il y a une volonté de se créer une sorte d'entité à part, mais à l'intérieur de quatre pays, notamment l'Iran, l'Irak, la Syrie et la Turquie, mais également ils veulent s'octroyer un rôle régional, c'est-à-dire dire on peut devenir je dirais les subsidiaires des forces occidentales. Cela n'est pas bon pour les Kurdes, n'est pas bon pour les pays concernés, et évidemment ça ne sert que les intérêts des Occidentaux qui n'ont pas particulièrement un œil avisé par rapport à cette région-là. Ils s'en servent en quelque sorte, ils se servent des Kurdes comme des pions et ils finiront malheureusement par payer le prix, ce qui est regrettable pour les Kurdes et ce qui est regrettable également pour les pays de la région. Et ça ne donne même pas la possibilité aux Kurdes de retenir cette leçon-là. Et pourtant, ça dure depuis des années. Ça,
alors, c'est pour, la première pour revenir, observation. Pour revenir la deuxième observation. Excusez-moi, pour revenir sur Paris, c'est la deuxième fois qu'il y a un attentat concernant les Kurdes à Paris. C'était également l'une des colères indiquées lors des manifestations. Mais pour revenir aussi à un autre sujet, ça a été donc les violences policières. Bien, forcément, l'Iran est intervenu à expliquer, étant donné qu'on a reproché à l'Iran face à des manifestations qui ont été violentes, souvent faites soit à l'arme blanche, soit avec des armes réelles, qui ont été importées des pays étrangers, des frontières, grâce à l'aide de pays étrangers. L'Iran a donc indiqué que voilà, la France devrait également faire preuve de retenue face à la violence policière. Bien entendu, l'Iran en a profité pour bien montrer que vous voyez, vous êtes face à des violences, vous-même, il n'y a qu'une seule chose qu'on peut faire à ce niveau-là, c'est de pouvoir arrêter les choses. Et l'Iran a bien montré que les violences policières étaient beaucoup plus régulières en France qu'elles n'ont pu arriver en Iran dans une situation, encore une fois, exceptionnelle. Qu'est-ce que vous avez à dire, là, quand M. Amir Abdullahian est intervenu, quand M. Khanani est également intervenu, porte-parole du gouvernement, qu'est-ce que vous avez envie de dire face à ces réactions iraniennes?
Les réactions iraniennes, je l'appellerai ces réactions comme la réponse du berger à la bergère, parce que il y a quelques semaines, on reprochait à l'Iran et à la force de sécurité iranienne d'user d'un certain degré de violence à l'égard des manifestants qui sont venus pour semer le trouble dans beaucoup de villes. Apparemment, c'était un projet bien organisé, bien orchestré, avec une alimentation qui venait de l'étranger. Mais il n'y a aucun État au monde, hein, qui arrive à gérer de manière exemplaire ce type de manifestation. Ça n'existe pas. Les États-Unis n'y sont pas parvenus quand il y a eu les manifestants, ce qu'ils ont appelé à l'époque les révoltés de Wall Street. Mais il n'y a pas que. Quand il y a eu l'entrée des manifestants, même à l'intérieur du Congrès, ce n'était pas facile non plus de gérer. Et il a fallu une intervention de force, mais cela n'a pas suffi, puisqu'ils ont pu parvenir à accéder au Congrès, ils ont pu l'occuper, et par conséquent, semer le trouble au point de parler d'un coup d'État. C'est-à-dire, même les États-Unis ne sont pas à l'abri. La France n'est pas à l'abri non plus, parce que constamment, effectivement, comme l'a rappelé M. Cohen, il y a des manifestations qui aboutissent à des débordements et à des violences policières. Mais encore une fois, la question de la violence policière est une question délicate. Aucun État n'a pu parvenir à trouver une solution radicale à ces questions-là. Parce que quand vous avez des manifestants qui veulent en découdre, ou bien des personnes infiltrées dans les manifestations pour justement provoquer le désordre, eh bien évidemment, la police finira par mélanger ceux qui veulent manifester avec ceux qui viennent pour en découdre. Et évidemment, vous aboutissez à des situations pour le moins compliquées. Et c'est la raison pour laquelle personne n'a à donner de leçons aux autres. La France n'avait pas à donner de leçons à l'Iran, mais en réalité, pour être clair, la leçon par rapport à la violence policière n'était pas par rapport à la violence policière, parce qu'en réalité, c'était contre le régime, parce qu'on voulait se payer, si j'ose dire, la tête du régime. Et d'ailleurs, quand on voit ce qui se passe autour et la volonté de discréditer le régime, de mettre en cause toute l'institution et toute l'institution judiciaire, policière, politique, à travers uniquement des manifestations qui étaient circonstanciées et qui étaient ciblées. Ce n'était pas une manifestation ou des manifestations généralisées à travers tout le pays. C'était quelque chose de ciblé qui visait à certains endroits et qui visait bien entendu certains symboles, moi j'appellerais. Et la France n'avait pas à donner ses leçons. Et là, aujourd'hui, la réponse du berger à la bergère en disant, regardez voir, même vous, par rapport à une manifestation unique concernant des gens qu'on appelle des radicaux ethniques, parce que c'est une manifestation ethnique qui visait à assurer une présence kurde et à montrer que la présence kurde peut être violente et doit bénéficier d'une protection particulière, et ben la France n'a pas pu y faire face et la police a dû avoir recours à la force. Il n'y a pas de leçon à donner, personne, encore une fois, ne peut le faire. Par contre, il faut toujours se rappeler d'une chose importante. La situation politique n'est pas systématiquement alliée à des manifestations. Les manifestations peuvent avoir des objets bien précis. Quand il y a eu les Gilets jaunes, il y a eu une mise en cause de la politique menée par le gouvernement, mais ce n'était pas une mise en cause de la République. C'est-à-dire, ce n'était pas une volonté de créer la révolution pour faire sauter la République. C'était un gouvernement qui menait une politique mauvaise pour la population, mauvaise pour l'opinion publique, mais également mauvaise pour l'ensemble des classes, que ce soit la classe moyenne, que ce soit la classe défavorisée, et que ce soit de la classe d'origine étrangère ou pas. Et bien entendu, vous avez parfois des infiltrations des gens qui jouent à l'extrémisme dans la violence, et la raison pour laquelle on s'en rappelle tous de ce qui s'est passé à l'Arc de Triomphe, mais pas que, il y en a qui ont même voulu aller à l'Élysée, parce que la volonté de casser du système politique français existait. Mais est-ce que c'était la volonté de casser la République ou c'était la volonté de casser les symboles politiques de cette République? Moi, je plaiderais pour le deuxième, parce que les gens ne voulaient pas changer de régime, ils ne voulaient pas basculer vers une anarchie, ils voulaient tout simplement cibler ceux qui prenaient les décisions politiques contre la classe populaire et contre la classe moyenne qui se trouvait, même si on utilise un terme fort, martyrisé par cette politique, et cela continue. C'est-à-dire aujourd'hui, nous sommes probablement également à la veille de manifestations qui peuvent surgir à tout moment, parce que la situation économique dans le pays n'est pas très acceptable. Et moi qui suis plus proche de ce qui se passe sur le terrain, je peux vous dire que la situation n'est pas enviable en France, mais à quel moment ça peut se déclencher, personne ne le sait. Et il y a systématiquement des rapports, des renseignements qui glanent en quelque sorte les informations par rapport aux activistes pour voir ce qui se passe ici ou là, si ça peut se développer ou pas. Et il y a des rapports qui remontent systématiquement, presque quotidiennement, par situation particulière, au ministère de l'Intérieur, via les préfectures, pour dire là il y a une situation risquée, là il y a une menace, ou là il y a quelque chose qui fermente, si j'ose dire, pour aboutir à quelque chose de plus important.
Je me permets de vous interrompre, je ne sais pas si nous avons encore le temps, mais juste à propos, c'est l'utilisation des médias, je veux dire, à part les journalistes indépendants qui sont rendus sur place à Paris, c'est grâce à eux finalement que les réseaux sociaux ont pu obtenir les images de ce qui se passait. Par la suite, seulement les médias français en ont parlé ou ont diffusé ces mêmes images grâce à des reporters indépendants. En Iran, on a plus ou moins reproché également à Presse TV d'avoir suivi les manifestations, d'avoir juste suivi les rapports de police qui parlaient donc des actes terroristes qui se sont passés au sein du territoire. Qu'est-ce que vous avez envie de dire à nos auditeurs qui nous suivent, qui voient ces médias réagir et être finalement en train d'agir de manière injuste par rapport à chaque sujet?
Évidemment. Les médias que j'appellerais pro-pouvoir, ou en tout cas qui essayent de se montrer un visage indépendant, mais en réalité, il n'y a aucun visage indépendant parce que ces médias sont devenus endoctrinés pour une bonne part d'entre eux, et du coup, ça pose un problème par rapport à la diffusion de l'information. C'est-à-dire, vous avez, l'autre fois, on assistait à une manifestation où il y avait, et bien entendu, une protestation contre la participation de la France à la guerre, et le journaliste disait avec véhémence comme quoi il n'y avait rien. Et en parallèle, vous aviez des médias, entre guillemets, non officiels, qui diffusaient les informations et les images sur ces manifestations-là, qui démontrent qu'il y a une volonté de cacher la vérité, c'est-à-dire tout le monde ne partage pas la position de la France par rapport à la guerre. Je prends cet exemple-là.
Merci, Maître Chami. Je suis vraiment désolée. Le débat pourrait être extrêmement large, bien entendu, surtout vu ce qui s'est passé ces derniers mois au Moyen-Orient et également cette révolution dite de couleur qui se fait à base de ces manifestations. Je vous remercie pour votre participation. Je remercie également M. Jacob Cohen pour sa participation. Moi, chers auditeurs, c'est ici que je vous quitte. Encore une fois, je vous remercie. N'hésitez pas à nous regarder, à revoir l'émission Débat sur nos différentes plateformes ainsi que sur notre site internet. Je vous remercie et je vous dis donc à la prochaine fois pour un nouveau sujet du débat ici à partir de la capitale iranienne, Téhéran.
La nouvelle stratégie de sécurité nationale des États-Unis prévoit un rôle accru pour les vassaux. Le gouvernement américain rédige et publie périodiquement un document appelé Stratégie de sécurité nationale SSN. Ce document énumère les problèmes de sécurité nationale auxquels le pays est confronté et définit la marche à suivre par l'administration en place pour y faire face. Outre l'identification habituelle des adversaires majeurs et moins importants, le document aborde d'autres questions clés telles que la position nucléaire des États-Unis et l'intégration accrue entre la thalassocratie belliqueuse et ses alliés vassaux régionaux. La nouvelle SSN, officiellement non classifiée à la fin du mois d'octobre, comprend quelques grandes sections sur les priorités futures et la planification des forces qui fournissent une perspective stratégique sur la manière dont les États-Unis cherchent à façonner et à améliorer leurs capacités militaires. Elle est également plus similaire à la révision de la SSN sous l'administration Trump, qui identifiait les grands pays comme les principaux défis en matière de sécurité. La principale différence est que l'approche de Donald Trump était plus isolationniste et axée sur la guerre économique, tandis que l'administration Biden fait preuve de plus de belligérance et d'une tendance à reléguer une grande partie de sa projection de puissance aux alliés et vassaux tels qu'Israël, le Royaume-Uni, l'Australie, l'Union européenne, le Japon et la Corée du Sud. Le nouveau document présente trois cadres géopolitiques de base. Premièrement, les États-Unis sont clairement définis comme une grande puissance ayant des intérêts mondiaux. On peut considérer qu'il s'agit d'une continuation de la définition d'Obama des États-Unis en tant que nation indispensable, une affirmation très controversée qui a essentiellement effacé la ligne de démarcation entre la politique intérieure et la politique étrangère des États-Unis, entraînant une série de guerres non déclarées dues à l'imposition des lois internes américaines à des dizaines de pays souverains. Cette approche, qui était auparavant extrêmement agressive à l'égard des petits pays, s'étend désormais non seulement aux grandes puissances régionales, mais aussi aux puissances mondiales. Ce sera la condition préalable la plus importante à l'établissement de l'hégémonie mondiale des États-Unis. Les événements tragiques en Ukraine, l'escalade des tensions dans la province insulaire chinoise sécessionniste de Taïwan montrent déjà à quel point cette nouvelle stratégie est dangereuse. Alors que les États-Unis ont essentiellement fait de l'Ukraine une extension d'eux-mêmes, comme en témoignent les quantités massives d'armes et d'autres ressources que la thalassocratie bellicose fournit à ses marionnettes de Kiev, la détérioration de la situation intérieure s'aggrave encore et l'administration Biden nous montre guère d'intérêt à en faire une priorité. Cela prouve une fois de plus que la ligne de démarcation entre la politique intérieure et la politique étrangère aux États-Unis a effectivement disparu à ce stade. La deuxième position adoptée par la SSN consiste à diviser tous les pays du monde en États libres et démocratiques et en autocraties. Il est intéressant de noter que si la Russie est définie comme incapable de changer l'ordre mondial, bien qu'elle puisse provoquer une instabilité régionale, les États-Unis considèrent que la Chine possède la force et les capacités nécessaires pour modifier l'équilibre actuel des forces dans le monde. Cette distinction entre Moscou et Pékin ne fait peut-être pas référence à la puissance militaire stratégique, mais elle se concentre sur l'aspect idéologique et économique de la rivalité géopolitique qui est plus prononcée dans le cas de la Chine. La troisième position se concentre sur la nouvelle attitude des États-Unis à l'égard de la mondialisation. Selon cette approche révisée, la Russie et la Chine ont largement bénéficié du processus de mondialisation, ce qui montre prétendument la nécessité de changer le modèle existant de mondialisation. Il s'agit principalement de l'introduction de diverses restrictions au libre-échange et à l'accès aux technologies modernes dans le but d'entraver le développement de la Russie et de la Chine. L'objectif final dans ce cas est de faire dérailler les deux géants eurasiatiques et leur stratégie technologique et économique. Cette approche représente clairement un grand degré de continuité entre les administrations Trump et Biden. La première a effectivement essayé d'utiliser la mondialisation comme un outil des intérêts nationaux américains et de faire chanter les pays pour les soumettre par le biais de diverses sanctions et restrictions. Les derniers points et les plus importants de la nouvelle SSN font référence au changement de l'approche américaine vis-à-vis du soi-disant endiguement de ses rivaux géopolitiques. Depuis la fin de la Première Guerre froide, les États-Unis ont engagé directement la quasi-totalité de leurs adversaires, tandis que le niveau stratégique de la rivalité était maintenu en sommeil. Toutefois, avec le retour de la Russie et la montée en puissance de la Chine, ainsi que l'expansion du pouvoir de divers acteurs régionaux, les États-Unis poussent désormais leurs alliés et leurs vassaux sous les feux de la rampe. Au Moyen-Orient, cela se traduit par une rivalité encore plus grande entre l'entité sioniste et l'Iran, qui inclura inévitablement la plupart des autres pays du Moyen-Orient. En Europe, outre le régime de Kiev, Berlin est poussé vers une plus grande militarisation avec l'objectif clair de contenir Moscou. En Asie, il en va de même pour la Corée du Sud et surtout le Japon, qui subit un programme de militarisation sans précédent.
Thank you.